Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Salut à tous, bienvenue à une autre émission de Ça tient la route. Monsieur McKenna, mes hommages.
Bonjour Benoît.
Alors, tiens, semaine où on va avoir une belle nouveauté parce qu'on a, toi et moi, été faire l'essai du nouveau modèle, en fait, le premier modèle au Canada, 100% électrique de chez Honda, le Prologue.
Oui.
Parce qu'il y a eu un Clarity 100% électrique aux États-Unis qu'on n'a pas eu, nous, ici.
On l'a pas vu, nous, non.
Et on est à essayer ça et là, l'embargo est levé, donc on peut officiellement parler. Je vais parler de ça et je vais aussi parler d'un modèle John Cooper Works, le mini John Cooper Works Countryman. Nouvelle version 2025. Je suis allé essayer au Portugal la semaine passée. L'embargo est levé pour ce modèle-là.
Il va falloir penser à le renommer Maxi bientôt, là, si j'ai bien compris.
Oui, on va s'en parler parce qu'il n'y a plus grand-chose de mini sur ce modèle-là.
Il y a
aussi le modèle SE électrique qu'on est à essayer, mais ça, l'embargo est la semaine prochaine. Il va falloir patienter un petit brin.
Bon.
On est à essayer le modèle X2. Ça, c'est le 6 mars, l'embargo. Fait qu'on va vous présenter encore un petit peu plus loin. On va avoir Yves Boisvert, que vous connaissez, chroniqueur de la presse depuis des années, qui lui a dit, il n'y a pas de crise de vol d'auto. Je ne vous en dis pas plus long. Ça va être notre invité aujourd'hui. Il va nous expliquer pourquoi. Et il y a un verbe toujours bien utilisé. Yves, on va pouvoir en jaser avec lui. Et évidemment, ben, chaque semaine, on commence par nos petites nouvelles de l'industrie. Je te laisse partir le bal, moi. Allez.
Ben, écoute, je vais vous envoyer un paquet de chiffres, une salade de chiffres, si vous voulez parler d'électrique. Parce que ce qu'on constate depuis quelques temps, en fait, c'est une bonne nouvelle, en fait. C'est que le prix des matériaux de batterie a chuté de façon assez radicale et ça laisse poindre à l'horizon. Moi aussi, je suis capable d'utiliser des verbes complexes,
oui,
ou peu utilisés en tout cas, un prix de voiture électrique qui va aussi baisser. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de véhicules électriques. Les prix devraient baisser en fait de façon assez significative si on se fie au coût des matériaux qui sont eux-mêmes déjà en chute libre. Là, ça signifie que c'est pas seulement Tesla et Lucid qui vont baisser leur prix. Ils l'ont fait d'ailleurs, je pense, la semaine passée encore une fois.
Ford qui a fait la même chose avec le Mach-E.
Ford qui l'a fait récemment aussi. Et donc, justement, les plus grands constructeurs risquent de faire la même chose. GM, Stellantis étaient aussi des constructeurs qui, dans les derniers jours, ont dit justement là, qu'ils entrevoyaient une baisse significative du coût des matériaux bruts qui entrent dans la composition de leur batterie.
Donc là, on parle de lithium, on parle de cobalt,
on parle de plusieurs matériaux, mais on parle beaucoup du lithium qui compose évidemment la majeure partie des batteries des véhicules électriques. Le prix du lithium a atteint un sommet en 2022 et il se vendait à ce moment-là 85 $ américains le kilo. Le prix du même kilo de lithium, ou en tout cas pour être très exact, c'est de l'hydroxyde de lithium, là, mais on n'a pas besoin d'aller dans le détail, était au début 2024, il n'y a pas longtemps, ça fait un mois et demi qu'on est en 2024, à 16 $ américains le kilo. C'est une baisse de 80% du prix.
C'est énorme,
pour
ça.
Le lithium, c'est gigantesque. Les prix du cobalt et du nickel sont aussi en baisse depuis quelques mois, là, notamment parce que les constructeurs d'automobiles ont opté pour une technologie concurrente, qui est le lithium fer phosphate, qui n'utilise pas de ces matériaux-là.
Mais il y a quand même du lithium dans le lithium fer phosphate.
Oui.
Sauf qu'il y en a quoi? Il y en a moins?
Bien, le lithium coûte moins cher, mais comme on remplace le cobalt et le nickel par d'autres matériaux, ceux-là aussi voient leur prix baisser parce qu'il y a moins de demande. C'est vraiment.
Exact.
Écoute, seulement des quantités limitées, qu'il y a vraiment la fameuse loi de l'offre et la demande est super applicable dans leur cas.
Et on étudie, moi, je parlais entre autres avec des gens de Mercedes il y a quelques mois qui me disaient qu'on garde les batteries lithium, nickel, cobalt pour le très haut de gamme.
Exact.
Parce que, évidemment, la pile coûte plus cher, puis qu'on va aller dans les modèles plus accessibles avec des batteries LFP.
On trouve différentes chimies de batteries, comme ils disent, dans le secteur pour justement différentes applications. Tout ça mis ensemble, là, on calcule que le coût d'assembler une batterie au lithium-ion a baissé de 14% en 2023 par rapport à 2022 et qui va baisser encore cette année, peut-être un peu plus que ça encore. Ça fait évidemment l'affaire des constructeurs et ça va faire plaisir aux automobilistes là, qui veulent s'électrifier. Ils n'ont pas s'électrocuté.
Ne pas confondre.
Mais pas faire ça. Détail intéressant, la provenance des batteries a aussi un effet sur les prix. Le prix moyen pour assembler une batterie au lithium, lithium-ion en 2023 était de 139 $ américains par kilowatt-heure aux États-Unis. Okay. Alors qu'il était de 126 $ américains le kilowattheure en Chine. Ça fait une différence de 11%. Et ça explique l'intérêt de certains constructeurs envers les fournisseurs chinois, même s'il y a beaucoup de géopolitique autour de ça.
Ouais, ouais, ben, t'as...
À la fin, c'est l'argent qui
En fait, c'est assez drôle parce que Jim Farley de Ford et Mary Barra de GM, qui sont les, respectivement les patrons des deux compagnies, ont dit qu'on regardait à s'associer avec des fournisseurs chinois.
Mm-hmm.
Ben, t'as Ford qui est déjà associé à un fournisseur de batteries qui va construire une usine aux États-Unis. Puis de l'autre côté, t'as Carlos Tavares en Europe, qui est le grand patron de Stellantis, qui a dit « de la marde, moi je me bats avec eux autres sur tous les marchés, on se battra sur le marché américain, puis je m'associe pas avec eux autres.
Ouais. »
Alors,
facile à dire quand t'as pas beaucoup de véhicules électriques bon, dans le catalogue.
Et est-ce qu'il y a d'autres manières? Est-ce que les Coréens peuvent arriver à faire des prix? C'est parce que le problème en ce moment, c'est que la Chine a littéralement la mainmise sur tous les ingrédients qui fabriquent une batterie. Et souvent, c'est la Chine qui fournit, évidemment, avec profit à l'avenant, les matériaux à d'autres constructeurs à travers le monde. Ils se prennent une cote au passage, et là, ben, t'es obligé de calculer ce pourcentage-là dans le prix du véhicule qui fait que t'es pas capable de vendre à un prix aussi alléchant que les Chinois.
On peut se demander, parce que ça revient un peu vers nous, combien va coûter l'assemblage d'une batterie avec Masterville quand Northvolt va ouvrir son usine? Parce que là, on
ça,
en a pour
quelques
années.
Ça, c'est une question très pertinente. Mais savoir quelle technologie et quelle chimie de batterie qu'on va prendre. Parce que là, on parle d'une ouverture possible en 2026.
2027 pour
la tendance. S'il n'y a pas de retard, parce que là, on le sait, là, on veut une étude du BAP, on veut ci, on veut ça. Ça retarde un peu les travaux. Mais c'est clair qu'en 27-28, les piles solides vont être à nos portes. Les piles au sodium vont être à nos portes. Est-ce que Northvolt va suivre la tendance? J'aimerais ça être un devin, puis vous le dire, mais ça reste encore un mystère.
Il y a une chose qu'on sait, ou en tout cas qu'on peut prédire, ou qu'on peut utiliser dans notre planification, utiliser l'expression que vous voulez, c'est que l'objectif, en fait, pour vendre un véhicule électrique au même prix qu'un véhicule comparable à moteur à essence, c'est 100 $ du kilowattheure.
Exact.
Fait que là, on voit que ça descend tranquillement, puis on s'approche de ça. Probablement que d'ici la prochaine, prochain cycle de véhicules neufs, mettons 4 ans.
On pourrait être proche de ça.
On va être pas loin de ça. Donc, à partir de là, bon, est-ce que les véhicules vont coûter quand même moins cher ou si tous les véhicules vont coûter plus cher, mais au même prix,
c'est une conversation. En fait, c'est que là, c'est pas les véhicules électriques qui descendent, c'est les véhicules ordinaires qui montent.
Que tout le monde veut faire de l'argent sur en tout cas,
effectivement.
C'est une conversation, mais pour les gens qui sont pro-électriques, et on devrait tous l'être d'une certaine façon, ça s'en vient, ça s'améliore. Ça sent mieux, comme dirait quelqu'un qui invente un verbe.
Oui. J'ai déjà dit ça s'empironne aussi.
Ben, voilà.
Autre nouvelle.
J'en ai une autre, mais dans un autre complètement un domaine autre complètement différent. GM a breveté une rampe de chargement pliable pour ses camionnettes. Moi, je trouve que c'est une idée ingénieuse. Le bureau américain des brevets a publié le mois dernier, c'était à la fin janvier, une demande qui a été faite par General Motors à l'été 2022 pour une paire de rampes de chargement qui s'accroche à l'arrière de la benne de ses camionnettes et qui se permettent de charger un véhicule, un plus petit véhicule à essence, un VTT, des motos, n'importe quoi. Et une fois que c'est terminé, elle se replie, elle se range ensuite dans la paroi latérale de la benne. Donc,
comme coller chaque
plus.
Côté.
Exactement.
Là, exact.
Ça a l'air un peu banal, là, mais je vais vous dire, trouver la bonne rampe pour sa camionnette, c'est toujours un
avec
peu compliqué.
Avec toutes les vidéos d'improvisation que j'ai vues pour mettre une motoneige, un VTT, un ATV, un side-by-side, un côte-à-côte.
Exact.
Alors, oui, effectivement, c'est pas les premiers à le faire, parce que Ford et Ram ont sorti des équivalents il y a même quelques années. Sauf que là, bon, on doit étudier la rentabilité de ça parce qu'il est clair que ça sera pas offert en équipement de série.
Non, exact. Ça va, c'est un accessoire.
Ça va être un accessoire et là, on doit étudier, bon, est-ce que on est capable de faire ça à un prix raisonnable pour que si on a un taux de pénétration de marché de, je dis n'importe quoi, 8%, qu'on va pouvoir rentabiliser ça.
Ouais.
Il doit y avoir des études qui se font. Il y a des futurologues. Oui, oui, c'est un métier qui existe chez les constructeurs automobiles. Il y a des gens qui sont justement engagés pour voir des tendances, regarder ces choses-là.
Mm-hmm.
Et on doit être à étudier la possibilité de dire, bon, OK, est-ce qu'on fait une bonne affaire avec ça? Et c'est à partir de là qu'on va probablement décider ou non d'en faire une.
Oui, bien, c'est déjà breveté. Effectivement, il va falloir voir. Ça a l'air assez solide parce que quand on voit la description du brevet, clairement, c'est
parce
articulé,
que,
c'est soutenu avec des supports.
On parle de mettre jusqu'à un ATV en arrière, là, un 4 roues, qui est quand même
exactement.
Bon. C'est relativement lourd. Donc, c'est en aluminium. C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant le communiqué.
Mm-hmm.
Mais on va voir. On va voir. Ça serait une option probablement fort appréciée de plusieurs.
Mais je vais féliciter GM lithium qui suit la tendance assez récente, parce que pendant un bon bout de temps, les boîtes de camions, ça, c'était toujours une boîte, puis il n'y avait pas de d'innovation, mais on commence à penser à une nouvelle façon de faire.
Ben, en fait, c'est que la boîte est de plus en plus récréative. Tu sais, une boîte avant, là, c'était un espace pour mettre des choses. Tu sais, vous étiez un agriculteur, vous étiez quelqu'un de la construction, vous étiez un corps de métier. Mm-hmm. Ça servait pour le travail. Mais là, on s'entend, là, la majorité des camions, des pick-up, c'est vendu comme récréatif.
Les gens achètent ça comme un véhicule, oui,
donc,
pour la
maison. Tu veux quelque chose où tu peux mettre ta moto, tu peux mettre ta motoneige, tu peux mettre ton vélo, tu peux mettre...
Un spa mobile sur quatre roues.
Ça se fait, on l'a vu. Les gens isolent ça, mettent de l'eau dedans, puis t'as un spa. Bon, c'est peut-être pas le plus confortable en ville, mais c'est que là, on étudie le côté récréatif du véhicule, ce qu'on n'a pas beaucoup fait dans le passé. Puis bon, évidemment, c'est un marché, c'est la vache à lait des constructeurs américains.
Il faut y penser.
Alors, on va tout faire pour que ça le demeure aussi longtemps qu'on va être capable de le faire. De mon côté, tiens, t'es-tu déjà demandé, Alain, combien ça coûte à la région de Montréal posséder un véhicule? Par mois.
Combien ça coûte aux gens qui ont un véhicule?
Aux gens qui ont un véhicule. On parle des véhicules neufs que vous achetez là, en 2024.
Avec les vignettes et tout le reste, ça peut venir par coûter cher. En plus, le prix de l'essence est plus cher à Montréal pour plein de raisons.
Exactement.
Et l'entretien avec les trous dans les routes, j'imagine que ça doit coûter cher.
Bon, il y a quelqu'un qui a fait ça, ça s'appelle Art Bacon. Oui, je l'ai pas anglicisé, là. Hard Bacon, comme Bacon dur.
Bacon dur.
Hardbacon.ca, c'est une compagnie québécoise qui a fait l'étude et ça coûte 1 310 $ par mois pour posséder un véhicule neuf. On a même pris la peine de vraiment segmenter les coûts. Bon, évidemment, le coût le plus important, vous l'aurez deviné, c'est la dépréciation. C'est 627 $ par mois. Hey, attends un peu, c'est pas 5 cents, là. C'est peut-être un peu moins pire en ce moment, là, parce que bon, les véhicules gardent une bonne valeur, mais c'est la valeur moyenne. Il y a à peu près 190 $ d'essence. On s'est basé sur un véhicule qui fait 9,4 litres aux 100 km de moyenne. Alors, si vous en faites
plus...
C'est pas un gros véhicule. On parle aussi d'entretien et réparation de 129 $. On parle toujours par mois. 75 $ d'assurance, 27 $ de permis, 110 $ de stationnement. Les intérêts, parce qu'évidemment, quand vous achetez un véhicule, il y a les taux d'intérêt, c'est 136 $ par mois. On a même calculé une moyenne de 16 $ par mois pour des contraventions. Cela, tu peux ajouter la vignette, effectivement. Donc, pour un total de 1 310 $, on a calculé que si vous gardez, par exemple, un véhicule pour... Attendez un petit peu, là, j'ai les chiffres devant moi. Sur une période de 10 ans, ça va donc vous coûter un peu plus de 120 000 $. Donc, vous voyez un peu, quand vous posez la question, j'ai-t-il moyen ou pas d'avoir une voiture? Puis là, c'est drôle parce que dans l'étude, on compare d'autres chiffres qui sont intéressants. On dit, ben si vous êtes en région montréalaise et vous décidez plutôt de prendre le métro, une passe Opus, ça coûte, par exemple, je pense que c'est 97 $ par mois. Si vous êtes membre communauto plus STM, c'est 341 par mois. Et on a fait une moyenne de calcul pour des coûts, pour des Uber, c'est à peu près 480 $ par mois. Donc, on regarde, bon, est-ce que vous avez besoin, parce qu'il y a des gens, moi j'ai des amis qui louent comme une auto quand ils en ont besoin, parce qu'ils n'ont pas besoin de véhicule en ville. Puis ils se disent, quand je dois sortir, que je vais quelque part la fin de semaine, on loue comme une auto, puis bingo, on se rend, on ramène l'auto. Ça coûte quelques centaines de dollars, mais il y a tout est inclus dans le prix du côté de communauto. Alors, tu sais, regardez vos besoins, regardez la solution. Mais ça fait réfléchir parce que finalement, ça coûte assez cher tout ça. Mm-hmm. Puis tu sais, des fois, on se dit, ah, tu as besoin d'une deuxième auto. Peut-être d'occasion, payez pas trop cher, mais tu sais, ça va très, très vite. Donc, c'était pour vous donner une petite idée de ce qu'il y a sur le marché en ce moment. Tiens, une autre nouvelle rapide. Les voitures électriques ont régressé en Europe, c'est-à-dire qu'ils représentent 11 % du marché, alors que l'an dernier, on était à 18,5. Donc, il y a une mini-récession. Là, les gens disent « Ah, vous n'êtes pas électrique ». Non, c'est une nouvelle, là. C'est la réalité. En fait, c'est qu'on a atteint une espèce de plateau. On le voit aussi aux États-Unis.
Il y a une fatigue un petit peu parce que les véhicules coûtent cher et pas tout le monde peut
les acheter. Effectivement, mm-hmm. là. Et c'est pour ça qu'on s'inquiète beaucoup du côté des constructeurs de l'accessibilité au prix des véhicules électriques parce que les gens qui avaient les moyens d'en acheter, je l'ai répété souvent, ont probablement déjà fait l'achat. Là, il y a un paquet de gens qui disent « ça me tente, mais je regarde les prix ». Puis là, ils vont encore me dire « ouais, mais tu n'as plus de gaz ». Oui, mais il faut d'abord au moins avoir les moyens de l'acheter au départ.
Oui, puis acheter une voiture à 70 000 $, c'est pas tout le monde qui est rendu là mentalement non plus. Moi, je regarde les prix.
C'est hallucinant.
C'est repoussant.
Moi, j'ai parlé à des gens, là, puis l'affaire, c'est que souvent, les gens n'ont pas acheté d'auto depuis quelques années. Tu sais, on regarde au Canada, puis c'est encore plus long aux États-Unis, mais la moyenne au Canada est autour de 8 ans là, qu'on garde son auto. Bon, bien, 8 ans, là, c'est en 2016, ça. Si vous avez magasiné une voiture, une voiture familiale, là, comme, je ne sais pas, un RAV4, une Venza, là, on est chez Toyota ou des équivalents, c'était à 28, 29, 30 000 $ là, en 2016. Mm-hmm. Une Venza rendue équipée à 60, là. Hey, les gens qui retournent, je vais changer ça pour un autre. Ouais. Hey, ils font le saut, là. Même affaire, un RAV4 équipé, c'était rendu à 50, là. Fait que les gens disent, ben non, fait que les achètent quoi? Ben, ils achètent une Kia Seltos. Un Kia Seltos à 31, 32. Ils achètent un Corolla Cross. Ils achètent plus petit parce que eux autres, ils ont un budget. Mm-hmm. Puis, ça a peu bougé, disons, de 2000 à 2016, 17, 18, même 19. On restait, oui, ça augmentait un peu. Mais les prix ont augmenté de presque 65 % depuis 2019.
On achète des plus gros véhicules aussi.
En fait, c'est qu'il y a juste des plus gros véhicules sur le marché. Les compagnies ont littéralement éliminé tous les petits véhicules de la route. Alors là, les gens font quoi? Puis même en occasion, depuis une couple d'années, si tu achètes une occasion récente, c'est aussi cher que le neuf. Fait que tu sais, les gens sont un peu pris entre l'arbre et l'écorce. Et des fois, là, on se dit, ben, OK, je vais garder mon vieux véhicule encore 2-3 ans. En espérant que ça va baisser, mais hey, Seigneur, ça va baisser lentement, lentement, lentement. Puis le problème, c'est que souvent, quand ça monte dans l'automobile, ça redescend plus. Là. Puis on a éliminé voiture pas chère, fait qu'il vous reste... T'sais, moi, j'ai peur que la voiture, en quelque part, redevienne un bien de luxe. On est déjà dans cette tendance-là. Puis on s'entend, là, les emplois sont plus précaires qu'auparavant. On change souvent d'emploi, on change souvent de patron, de job, et d'investir de tels montants. Moi, tu sais, je voudrais mettre de l'argent de côté pour m'acheter une maison, un condo avant l'auto. Mm-hmm. Puis ça va être le cas de bien du monde. Mais j'ai hâte de voir parce que les prochaines années vont être assez révélatrices à ce point.
Ben, c'est sûr que ce sont des cycles économiques qui font que les choses sont plus accessibles ou moins. Puis on est dans une passe là où tout coûte plus cher.
Exact. Fait qu'on va aller, nous, à la pause et on revient avec notre invité Yves Boisvert.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par les Centres de prévention du suicide du Québec.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Notre invité est bien connu, il est chroniqueur à la presse depuis des années. Il fait des textes qui vont provoquer des réactions et c'est toujours fort intéressant et surtout très fouillé. Il s'agit d'Yves Boisvert. Yves Boisvert, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission, merci d'être là. On sait qu'on est en semaine et que vous travaillez, donc on va essayer de faire ça de façon brève. Vous avez écrit, Yves, un texte dans la presse du début de la semaine, lundi, qui parlait des vols de voitures. C'est un thème populaire parce que ça a fait le tour des médias littéralement dans les dernières semaines. Mais j'aime l'angle que vous avez pris de dire « quelle crise ». Il n'y a pas vraiment de crise. D'abord, expliquez-nous le titre et dans quel contexte vous avez pris ça.
Ben, en fait, c'était pas mon plan au départ. Moi, je voulais écrire sur les solutions à la crise.
OK.
C'est-à-dire que Là, il y a Pierre Poilievre qui a dit il faut que les peines de prison soient plus sévères, on va augmenter les peines.
Oui, venant de Pierre Poilievre, c'est pas vraiment surprenant, là.
Ben non, bien sûr, les conservateurs, c'est leur théorie.
Ben oui.
Mais là, le gouvernement libéral a dit on trouve aussi que les peines sont pas assez sévères. Ça se peut que dans certains cas, ça ne soit pas, mais c'est une affaire qui a été beaucoup, beaucoup étudiée, ça, en criminologie. Qu'est-ce qui fait que le taux de criminalité va augmenter ou diminuer? Mm-hmm. Et le fait de dire à un voleur, si tu te fais attraper, tu risques 2 ans de prison plutôt que 14 mois, ça ne change rien. C'est pas ça qui... Alors, moi, à ça que je voulais répondre.
OK, parce que, on le sait, aux États-Unis, on peut, à partir de l'âge de 14 ans, accuser des jeunes d'un crime majeur. C'est pas tous les États, mais plusieurs États le font. Et on fait exprès au Canada, les réseaux de criminels qui font des vols de voitures vont souvent engager des mineurs pour voler les voitures, sachant très bien qu'ils vont recevoir une tape ses doigts, passer une nuit en prison, puis être relâché le lendemain, là. Donc, il peut y avoir une raison, effectivement, peut-être de criminaliser ça de façon un petit peu plus sévère.
C'est quand même déjà criminalisé.
Ouais.
Maintenant, effectivement, on les utilise, les adolescents, en disant, on va faire passer ça pour ce qu'on appelle en anglais une joyride, c'est-à-dire des gens qui font juste voler une voiture pour aller faire un tour puis l'abandonnent après.
Exact.
Ce qui est généralement pas le cas des vols en général. Pour répondre à l'argument sur la question de savoir est-ce que ça va aider à la situation. Ça va répondre à la crise.
Mm-hmm.
Et là, j'ai commencé à fouiller, puis j'ai regardé c'est quoi l'état de la crise. Combien de voitures sont volées au Canada? Parce que c'est vrai que ça a beaucoup augmenté dans les 2 dernières années.
Oui, mais ça avait baissé depuis plusieurs années avant.
Mais c'est ça, c'est que ça a augmenté, mais ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'on avait atteint un creux historique il y a à peu près 3 ans. Si on remonte à 1996, ça fait 28 ans, il y a eu au Canada 178 000 véhicules volés.
Cette année-là, oui.
Si on se rapporte à 2022, il y en a eu 105 000. Donc, beaucoup moins.
Mmh. Effectivement.
Et en plus, en 1996, il y avait au Canada en tout 17,2 millions de véhicules qui étaient enregistrés. En 2022, il y en a 26 millions. Donc, beaucoup plus de voitures et beaucoup moins de vols. Et si on se colle sur les 3 dernières années, l'augmentation est plus grande. Alors, donc, j'isolais le portrait récent. Ah, mais c'est épouvantable, qu'est-ce qui arrive? Et c'est vrai que c'est beaucoup de véhicules, là, parce que ça fait quand même beaucoup de gens qui sont affectés. Puis si vous avez une voiture pendant 5 ans, bien là, vous commencez à avoir des bonnes chances, entre guillemets, de vous faire voler votre véhicule. Mmh. Mais une crise, c'est un moment, disons, qui sort des statistiques. C'est un truc qui est historiquement aberrant. Là. C'est un truc qui est vraiment là, un fléau qu'il faut dénoncer. Mais ça fait longtemps que, si on veut parler d'un fléau, c'était bien pire il y a 30 ans.
Écoute,
alors donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de crise. Là.
Non. C'est une crise qui revient périodiquement, parce que moi, je me rappelle d'avoir lu des statistiques des années 70 et on parlait déjà d'un fléau à l'époque. Ça fait 50 ans, là.
Alors là, il faut se demander pourquoi ça sort comme ça. Pourquoi? La raison est simple, c'est que un budget de corps de police, c'est pas illimité. Alors, eux autres, sur quoi un corps de police va être en priorité? Les crimes contre la personne, bien sûr.
Bien oui.
Les homicides, les tentatives de meurtre, les agressions sexuelles, les voies de fait, les choses les plus dangereuses, on va dire. Les vols contre la propriété, ça va venir après. Et donc, il y a une concurrence des différentes personnes qui veulent qu'on enquête sur les crimes pour mobiliser la police au sujet de ces crimes-là. Alors, les compagnies d'assurance, chaque année, ils alertent les policiers et ils font pression sur l'opinion publique et les politiciens en disant « Il y a une crise des vols de voitures, il faut faire quelque chose. Il faut que la police, parce que c'est un des crimes qui a le plus bas taux de résolution. » Les crimes, les homicides, la plupart sont résolus, entre guillemets. Mais les vols de voitures, c'est du 10, 12, 15 pour...
Ah oui,
pas
oui.
De chance, si vous êtes devait voler votre voiture, de appeler la police, vous bien les envoyer.
On entend beaucoup parler des cas où on a retrouvé ma voiture dans un conteneur au port de Montréal, mais c'est anecdotique, c'est pas des cas où c'est facile.
Non, pis,
c'est pas si simple que ça pour le corps policier de retrouver des
cas. Puis il y a tellement pas d'intérêt. Moi, j'avais parlé avec des gens des douanes parce que les voitures qui partent du port de Montréal vers l'Afrique vont transiter par l'Europe parce que c'est pas un chemin direct. Et le port de Anvers, en Belgique, entre autres, chaque mois, fait un encan des véhicules volés, retrouvés au port. Et il y a beaucoup de ces voitures-là qui viennent du Canada. Et on appelle toujours, parce que c'est facile, avec la plaque qui est encore sur le véhicule, puis le numéro d'identification, on peut rapidement retracer le propriétaire. On appelle les compagnies d'assurance et souvent, les réponses, c'est « Ah, vous savez, notre assuré a déjà un autre véhicule. » Nous, on l'a remboursé. Vous pouvez revendre le véhicule. Donc, c'en est même
c'est
ridicule parce que
retrouve. Vous imaginez.
Il y a une industrie légale qui vit de véhicules volés en Europe.
Ben oui. Parce que là, le coût d'enquêter sur un véhicule, comment on va le retrouver? Ça se fait.
Ah oui.
Et ça prend. On va mobiliser beaucoup, beaucoup de ressources pour quelque chose qui. Mettez-vous à la place d'un directeur de police. Lui, il sait que la victime de ce crime-là, sa vie n'est pas en danger, sa santé n'est pas en danger, c'est un paquet de troubles, mais la compagnie d'assurance va le compenser.
Ah, voilà.
Donc, c'est pas, ça l'empêche pas de dormir. Mais si je veux. Et donc, la compagnie d'assurance, elle, si la voiture est retrouvée à l'autre bout du monde, ben là, il va falloir qu'elle engage des coûts pour faire venir un véhicule dans. Alors, tout ça fait en sorte que. Mais c'est un vrai problème. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien là, les vols de véhicules, on devrait laisser ça aller. Mais ce qui me fascine là-dedans, c'est la mécanique médiatique.
Exact.
Qui nous dit périodiquement, il y a une crise, c'est terrible, c'est vrai, ça a augmenté. Mais historiquement, il n'y en a pas beaucoup, là, comparé à avant. Et ce que ça fait, c'est que. Ben là, les compagnies d'assurance, ils font leur travail. Ils disent, écoutez, c'est grave cette affaire-là, il faut qu'on intervienne, il faut démanteler les réseaux. Donc là, vous voyez, là, ces jours-ci, on voit des arrestations, on voit des réseaux qui commencent à être démantelés. Puis je vous garantis qu'il va y avoir beaucoup d'interventions policières, entre autres à Montréal, qui est un carrefour pour l'exportation.
Oui, absolument. C'est la plaque tournante au Canada.
Je vous fais une prédiction, là. Ça va diminuer puis il va y avoir des arrestations. Pourquoi? Parce que là, il y a une pression politique sur les corps policiers de régler cette question-là. Comme il était devenu intolérable qu'il y ait une augmentation des fusillades à Montréal. Mm-hmm. Ça a baissé de 26% en un an. Pas parce que les sentences sont plus longues, parce que là, il y a eu une mobilisation policière de différents corps de police qui ont dit là, ça n'a plus d'allure, il faut qu'on envoie un message, il faut qu'on fasse des interventions. Et donc, il y a une pression sur le milieu criminel qui s'est faite et ça a donné ce résultat-là très rapidement. C'est beaucoup, 26%.
Oui, en un an, c'est beaucoup, effectivement.
Donc, la même chose risque de se produire avec les véhicules automobiles. Et là, c'est un peu comme si l'industrie de l'assurance disait, ben, écoutez, là, oubliez-nous pas, là, ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Et là, on va gonfler la réalité en disant c'est sans précédent, et ainsi de suite. Mais non, savez-vous quoi? Vous aviez deux fois et demi plus de chances de vous faire voler votre voiture dans une rue au Canada en 1996 qu'aujourd'hui. Alors, donc.
Vu comme ça, c'est plutôt rassurant, en fait.
Ben oui, mais là, je veux pas. Je veux insister pour dire que. C'est un vrai problème quand même,
oui.
Parce que ça fait quand même beaucoup d'argent et beaucoup de pertes qui sont assumées éventuellement par les assurés, parce qu'évidemment, les assureurs vont refiler ça aux assurés. Là, la question, oui, les corps de police, oui, les policiers, les lois, les juges, tout ça, mais la question, et là, ça, c'est vous qui allez pouvoir répondre à celle-là, c'est comment ça se fait qu'avec toutes ces avancées technologiques, on n'est pas encore de bons systèmes anti-vol. Est-ce que l'industrie est vraiment concernée par ça?
Moi, j'ai posé la question, je vais taire la compagnie parce que c'était c'était off-record, là, c'était ouais. Pendant un souper. Et on dit, pour le moment, eux se disaient satisfaits et disaient que de toute façon, Le client était remboursé quand il y avait un vol et ça permettait à la compagnie de vendre un autre véhicule.
Ça fait rouler l'économie. Ben voilà.
C'est formidable. Ça, c'est formidable. C'est...
Mais c'était d'une honnêteté un peu désarmante.
Mais il y a une insouciance des constructeurs.
Il y a une insouciance. Ben, écoute, Alain le dit, là, si on est capable de faire une transaction par Internet sécurisée, je peux pas croire qu'on n'est pas capable de faire une clé inviolable. Ça existe. Il y a des compagnies automobiles qui vont annuler, par exemple, le signal de la clé quand la clé n'est pas en fonction. Il y a des systèmes qui existent pour bloquer l'entrée de l'OBD2, qui est souvent l'endroit l'accès qu'on utilise pour l'accès à l'ordinateur de bord pour des vols électroniques. Il y a des compagnies, on le voit, là, il y a très peu de véhicules volés. Et il y en a d'autres qui sont toujours en haut de la liste. Honda, Toyota sont toujours là. Tu dis, bon, on attend quoi exactement?
On va dire, c'est parce que c'est des bons produits, ils sont populaires, mais quand même, oui. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas... Alors, il faudrait peut-être aussi mettre de la pression sur ces gens-là pour qu'ils aient des meilleurs systèmes.
Et je sais qu'on en a discuté au sommet qu'il y a eu le 8 février dernier du côté d'Ottawa. Maintenant, est-ce qu'il y a une décision qui va être prise? Parce que là, il y a toujours l'avantage et le désavantage concurrentiel. C'est-à-dire que si une compagnie dit, ouais, on va en mettre un, mais là, ça va coûter de temps. Je prends l'exemple de l'immobilisateur qui est obligatoire au Canada et qui ne l'est pas aux États-Unis, puis des compagnies comme Kia et Hyundai qui ne l'ont pas. Écoute, il y a même des défis sur TikTok aux États-Unis, comment voler un Hyundai et un Kia, et on a dû intervenir à l'échelle gouvernementale pour dire aux gens d'arrêter de faire ça, parce que c'était rendu que n'importe qui, pour le plaisir et le défi d'un chum, allait voler une voiture. Là, c'était rendu tellement facile que c'en était ridicule, là.
Si on pense à toutes les avancées en termes de sécurité qui ont été, je me rappelle à l'école primaire de lire un livre sur la voiture du futur où est-ce qu'on voyait des coussins qui gonflaient pour empêcher des blessures lors d'un accident.
Ouais.
Mais incroyable. Bon, mais maintenant, c'est standard.
Absolument.
Mais c'est parce qu'il y a eu des lois, et ça part souvent de la Californie, qui ont dit, ben là, ça va être ça. Ça va être les normes anti-pollution, ça va être ça. Alors, c'est bien sympathique, nos colocs au Canada, mais je pense pas que c'est ça qui va révolutionner l'industrie.
En fait,
à un moment donné, il va y avoir une norme qui va être imposée, et peut-être avant que les voleurs trouvent le moyen de la déjouer. Mais là, il faudrait peut-être regarder là, ça serait moins compliqué que d'avoir des escouades qui pourraient faire autre chose. Et ce que vous venez de dire, là, c'est exactement le même mouvement, on va dire, psychologique pour les policiers, c'est que c'est pas si grave que ça.
Ouais.
La compagnie d'assurance va payer. Il y a tellement d'autres choses. Il y a tellement d'autres voleurs en ville, de toutes sortes de choses. Il y a tellement de choses dangereuses qui se passent. On s'en occupera plus tard.
Exact. Quand la vie humaine n'est pas en danger, ce n'est pas une priorité.
C'est pas en haut de la pile.
C'est pas en haut de la pile, effectivement. En tout cas, Yves Boisvert, va falloir prendre le temps de s'en reparler, de voir ce qui sera fait. L'année prochaine, on prendra rendez-vous.
Avec grand plaisir. J'ai hâte de voir les statistiques dans un an.
Bon, ben merci beaucoup, Yves Boisvert. Merci. C'était bien gentil d'avoir pris le temps de nous jaser. On s'en reparle un jour.
Avec plaisir.
Merci. Bye-bye. Alors, c'était Yves Boisvert, chroniqueur à la presse, qui nous parlait de vol d'auto. Fort pertinent et fort intéressant.
Mise en contexte nécessaire, ben oui.
Absolument. Alors, merci encore. Et nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers tout de suite.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois.
Ouais.
Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par les Centres de prévention du suicide du Québec.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, c'est le moment de parler de nos essais routiers de la semaine. Et
oui, monsieur.
Deux nouveautés, rien de
moins.
Grosse
semaine.
Grosse semaine. En fait, l'embargo vient juste d'être levé pour le Honda Prologue.
Exact.
On a fait un lancement canadien au Québec. Hein?
Ouais.
On a fait ça chez nous. On est allé se promener à Bromont.
L'Est, voilà.
Absolument. Alors, Alain, je te laisse partir. J'étais aussi au lancement.
Ben
puis
oui.
Je vais t'accompagner dans tes commentaires.
Écoute, je me suis demandé, parce que je trouve que le nom Prologue dit tout sur ce véhicule-là. Alors, je suis allé chercher la définition de Prologue,
oui.
Juste pour le fun. C'est la première partie d'une œuvre littéraire ou la première scène d'une œuvre dramatique qui fait office de préface, d'introduction ou de préambule Je pense que ça, c'est applicable pour le premier véhicule tout électrique signé Honda, vendu chez nous, en
exact.
Fait. C'est le premier VUS tout électrique tout court signé Honda, parce qu'il y avait le Clarity, mais c'était comme une espèce de familiale, en fait.
Oui, puis la Clarity s'est vendue en version électrique aux États-Unis, mais voilà. Pas chez nous. C'est un hybride branchable uniquement du côté du Canada.
Donc, c'est signé Honda, et par signé Honda, on veut dire produit par General Motors en grande partie.
Oui, bien, en fait, je trouve ça intéressant comme prologue, parce que c'est comme dire, bon, on a fait un essai avec GM, ça sera le seul modèle qu'on aura avec eux autres, puis on va continuer nous-mêmes avec Sony, là, entre parenthèses.
Non, Sony,
parce
d'autres fabricants, d'autres fournisseurs.
Il y a d'autres mondes. Honda n'a pas été précis là-dessus.
Non, puis ils sont en mode rattrapage. Et ceux qui se le demandent, ce véhicule-là a l'allure générale et est essentiellement identique en termes de fiches techniques au Blazer EV qui commence très lentement à être mis en marché par Chevrolet.
Oui, on en a quelques-uns chez les concessionnaires.
On va dire que c'est un véhicule qui arrive vite, mais il arrive.
Il arrive lentement.
Avec un Blazer tout électrique à 63 000 $ il y a un Cadillac Lyriq qui, lui, coûte à 60 000 $ pour partir. Chevrolet a ses propres défis, je veux dire ça comme ça, à relever pour vendre son VUS électrique. Mais Honda aussi a besoin d'être convaincant, et ça aussi, c'est loin d'être gagné. Rappelons juste pour le principe que quand tu veux un produit que tu rachètes d'un concurrent, c'est pas mal moins payant que de vendre tes propres produits.
C'est
donc
clair.
L'incitatif du côté d'Honda pour mousser le prologue, c'est un peu
mince. Moi, je l'appellerais le véhicule de conformité de Honda.
Ouais, ça, il y en a eu beaucoup dans le passé, ça n'a jamais été un gros succès.
Non, c'est pour ça que je prévois pas un avenir radieux. Et ça n'enlève rien au véhicule.
Ben non, ben voilà, c'est parce que ça nous laisse un petit peu sur notre fin de ce côté-là. Parce qu'il faut le dire, le prologue, ben en tout cas, moi, je veux dire, la première partie, moins le fun, le prologue n'a pas grand-chose d'un véhicule Honda dans sa forme, dans sa finition et dans son comportement.
Non.
Évidemment, ça reste subjectif comme affirmation, mais pour des gens qui ont conduit Honda toute leur vie, moi, ça fait un peu partie des premiers véhicules que j'ai achetés. J'ai toujours une espèce d'idée de ce qu'est un véhicule Honda.
Oh, ouais, il y a.
Le prologue n'est pas tout à fait là.
Il y a un pedigree, un ADN à des produits Honda. Exactement. Effectivement.
Bon, évidemment, il faut dire que le véhicule est électrique, ça affecte un peu le comportement. Oui. Et pourtant, moi, je trouve que ça, c'est un plus. Le véhicule est évidemment costaud, lourd, reste rassurant quand il se déplace sur la route. C'est très Honda dans cette approche-là. Et quand je dis la route, je parle d'un champ de mine, parce que d'ici à Bromont, je vais vous dire franchement, il y a plus de trous que d'asphalte par les temps qui courent.
Il y en a pas mal et on a pris quelques routes secondaires pour s'y rendre
ben
en
voilà.
plus.
Le prologue reste comme un véhicule électrique de ce format-là, assez pesant, là, mais il a une suspension qui est calibrée de façon à adoucir les chocs plutôt qu'à les absorber, ce qui fait une espèce de... Honda parle de comportement sportif, mais ça, évidemment, c'est un mot qui veut dire tellement n'importe quoi qu'on n'est pas là. Mais on n'est pas non plus dans une Lexus ou dans un gros véhicule
Même en
Mercedes.
Mode sport, on n'est pas là.
Ben
mais
non,
écoute,
ben voilà.
Il y a 288 chevaux. Ici, on n'aura que la version 4 roues motrices parce qu'il va exister une version 2 roues motrices aux États-Unis qu'on n'aura pas. Mais 288 chevaux, c'est pas mauvais. Mais c'est rien pour écrire à sa mère.
Ben, c'est qu'on a tendance à aller vite dans la surenchère de puissance dans l'électrique. Là, on a 288 chevaux, tu l'as dit, 333 livres-pieds de couple. Mais dans l'électrique, on le sait, le couple est instantané. Il peut être faramineux. Il y a des véhicules qui en font, en tout cas, une obsession. Des constructeurs qui s'énervent un peu avec ça. Dans ce cas-ci, on est resté très raisonnable. Moi, je veux dire ceci, le véhicule livre ses promesses. Son autonomie est bonne. Sa pile fait 85 kWh. L'autonomie annoncée de 439 km par charge pour la version Touring, la plus équipée, qui a des roues de 21 pouces qui sont un petit peu plus grosses que les deux modèles d'entrée de gamme, donc ce qui explique l'autonomie plus courte, parce que sur les deux autres, c'est 452 km d'autonomie par charge. Des versions qui s'appellent EX et EXL, donc pour les modèles d'entrée de gamme.
Ouais.
Dans la vraie vie, c'est pas super loin de la vérité. On l'a pas conduit sur une pleine charge. On a fait un Montréal, même un Boucherville-Brabant, ce qui est pas exactement une très grande distance, mais on a fait à peu près 200 km. Ça a pris à peu près ce que j'appellerais un demi-plein, même une demi-charge. Et c'est arrivé au début de février, donc c'est quand même l'hiver, même si on n'a pas l'hiver le plus froid.
On n'avait pas la grande journée froide de l'hiver, mais quand même, c'était l'hiver.
On promet aussi une recharge rapide de 150 kW. En tout cas, si on a une borne de 150 kW là, qui permet de récupérer l'équivalent de 100 km d'autonomie en 10 minutes. Pour les gens qui font des grandes distances, ça veut dire qu'on peut faire à peu près 400 km. Et ça, c'est de l'autoroute beaucoup pour se rendre à Bromont. Donc, à haute vitesse, 110 km/h environ, on a une autonomie qui ressemble à 400 km, ce qui est quand même pas mal pour un véhicule électrique. Autre bonne nouvelle, pour le Canada, tu l'as dit, le prologue d'un véhicule à 4 roues motrices, peu importe la version, y compris sur le modèle d'entrée de gamme, ça veut dire qu'il y a deux moteurs. D'entrée de gamme, c'est 60 000 $ et on a droit, c'est ça qui est le fun, une aide à l'achat de 5 000 $ au fédéral et 7 000 $ au provincial après taxe. Ce qui fait que c'est un VUS intermédiaire correct en termes de prix parce que c'est vraiment dans pile poil dans la cible de ce que les autres constructeurs offrent en ce moment.
Ouais, puis il faut préciser que le 5000 et le 7000 c'est pour la version EX qui commence à 59 990.
Voilà, c'est limité comme accès à l'aide à l'achat effectivement.
À l'EXL qui est à 64 990. Si vous allez dans le Touring à 67 990, vous aurez le fédéral à 5000 mais plus le provincial à 5000.
On a 5000 partout, mais c'est ça, on a 12 000 sur les deux modèles d'entrée gamme. De toute façon, je veux dire ceci. Personnellement, le Touring n'apparaît pas comme le plus intéressant des trois.
Puis vous allez payer...
Surtout vu le prix.
Bon, vu le prix, et c'est uniquement de l'équipement. C'est le même, c'est les mêmes moteurs, sans même batterie.
De l'accessoire, en plus. C'est pas de l'équipement...
Non. Puis honnêtement, le EXL, là, c'est amplement suffisant.
Ouais. Ben, même le X, à la limite, parce que c'est le même système multimédia qui est très minimaliste. Et la seule grosse différence, c'est qu'il y a un toit panoramique dans le XL. Puis là, c'est une question de goût. Il faut savoir si on aime ça. Moi, personnellement, je suis très heureux d'avoir un toit fermé dans mes véhicules. Je n'en ferais pas une obsession. Et on a la même mécanique qui est essentiellement la même. Je pense qu'il y a peut-être des choix de couleurs qui ne sont pas accessibles, qui sont exclusifs au Touring. Puis les roues de 21 pouces, évidemment. Mais sinon, écoute, cela dit, moi, je trouve que le Prologue a tout pour séduire, à part son prix, dans certains cas, qui reste quand même assez élevé. Là, on n'a pas le choix. On ne s'en sort pas qu'en bas de 50 000 $ sur un véhicule électrique de nos jours. Mais on peut l'amortir assez rapidement si on fait pas mal de routes, parce que clairement, on peut faire du millage avec ce véhicule-là. Je trouve ça quand même dommage que Honda ait dû sacrifier une partie de sa tradition, de son image ou son feeling pour offrir son premier VUS électrique. Évidemment, on l'espère, et c'est probablement ce qui va arriver, que la suite va être plus originale dans les futurs véhicules à venir. Mais
ça, c'est à voir, mais disons que pour les deux prochaines années, ça va ressembler à ça.
Exactement.
Et effectivement, le véhicule est intéressant. Bel espace intérieur. Là, il y a un empattement plus
long.
Ben oui,
ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est bon pour 5 passagers. 5 vrais humains peuvent prendre place à bord, il n'y a pas de problème.
Parce que l'empattement dépasse le 3 mètres, c'est plus long que le Honda Passport. Mm-hmm. Alors, ça vous donne une idée de l'espace intérieur. C'est un 5 places avec beaucoup d'espace et beaucoup d'espace cargo.
Ouais.
Donc, pour la famille, c'est un modèle intéressant et la ligne n'est pas moche. La ligne est intéressante. Donc, je pense que c'est un modèle que vous pouvez considérer. Moi, je suis allé ailleurs.
Littéralement?
Littéralement, j'étais du côté du Portugal pour des essais BMW et Mini. Et on a essayé le Mini Countryman John Cooper Works 2025. Je le sais, ça fait long de dire tout ça en même temps. Et c'est drôle parce que c'est le moins mini des mini que j'ai essayé depuis longtemps.
Puis il est plus gros qu'il était en plus.
Ah, il est pas mal. Écoute, c'est une base de BMW X1. Alors, prenez ça comme vous voulez. Le mini X1, le X1 de BMW, lui aussi, près du volume.
Mm-hmm.
Écoutez, on a un véhicule qui fait 4,4 mètres de long. J'ai mesuré pour le fun avec un hotback qui est à 4,6 mètres de long.
Oh, mon Dieu!
On n'est pas si loin que ça. Bon,
c'est
aussi grand.
Ben oui.
Mais on fait quoi du côté de Mini? On veut agrandir les possibilités pour la clientèle. On veut garder l'image de Mini. Fait qu'on garde le style dans sa forme, mais on agrandit. Écoutez, là, je parlais de 4,43 mètres de long. C'était 4,3 mètres de long. Donc, on a un 12 cm de plus que l'ancienne version. 12 cm, c'est quand même significatif.
C'est une tradition de grossir les véhicules.
1843 mm de large. On avait 1822 avant. 1,65 mètres de haut versus 1,55. Puis l'empattement est passé à 2692 mm contre 2670. Fait que c'est pas compliqué. Tout a pris du volume. Pourquoi? Ben justement, on va aller chercher la famille.
Oui.
On a gardé le moteur 2 litres turbo, mais 312 chevaux maintenant. Et le poids, 1660 kg. C'est lourd, ça. Il n'y a pas dit les mini, t'as pas à 1000 kg quand ça a commencé. Là. Puis on parle même pas des, on parle des nouvelles, pas des anciennes des années 50-60. On parle des mini, là. Donc, oui, on a gardé la silhouette. On a beaucoup épuré. La ligne générale est beaucoup plus droite.
Moins arrondie un peu, ouais, c'est ça.
Moins arrondie, on a fait quelque chose d'un petit peu plus, moi j'appelle ça look industriel. Là. On a gardé des éclats du drapeau britannique dans les feux arrière, c'est-à-dire qu'il y a trois thématiques.
Le Union Jack.
Le Union Jack qu'on peut reproduire dans les feux. Ça, c'est une tradition chez Mini qu'on a conservée du côté de BMW. À l'intérieur, il y a une orchestration qui est organisée autour d'un nouveau écran de 9,4 pouces, qui est une assiette, littéralement, c'est rond, parce qu'on
c'est
le sait,
rond.
Dans les mini, c'est rond.
Mm-hmm.
Mais là, on a, c'est tout à l'écran, là. Il y a beaucoup moins de boutons. Il reste quelques interrupteurs. On connaît la façon de...
Switch, c'est l'aviation un peu.
Exactement,
là.
Qui est sous l'écran pour certaines des fonctions. mais il y a moins de boutons qui traînent autour. On a tout mis à l'écran. Il faut s'y habituer. Nous, on a eu la voiture une journée, là, puis ça nous a pris quelques heures avant de trouver dans le menu. Mais ça se fait. On a même, écoutez, on a tellement étiré l'espace que les sièges à l'arrière sont sur glissière. On peut reculer jusqu'à 13 cm.
Oh, wow.
Et on peut, avec ça, reculer un peu le dossier de deux façons différentes. On a les sièges baissés jusqu'à 1470 litres d'espace.
Donc, c'est vraiment familial.
C'est vraiment familial. C'est une voiture pour la famille. Mm-hmm. Le prix est à l'avenant aussi. On parle de 56 290 canadiens.
Ça reste le John Cooper Works.
C'est le John Cooper Works. C'est le plus équipé. C'est puissant. Mais je dirais qu'il y a une certaine lourdeur dans la direction. La puissance est là, mais c'est une direction électrique et on pourrait travailler un peu la rapidité de la direction. Mais c'est un 4 roues motrices, ça tient bien la route, ça a du cœur, 5,6 secondes pour un 0-100 km/h, c'est rapide.
Mm-hmm.
On amène le son du moteur via le système audio dans l'auto pour nous donner un petit peu plus de oomph. Mais dans l'ensemble, si vous aimez quelque chose de différent... qui ne ressemble à rien d'autre d'un point de vue VUS, parce que c'est un VUS, vous êtes au bon endroit, mais l'idée, c'est que ça se conduit encore en grande partie comme un mini.
Ah oui.
Fait que ça, c'est un avantage certain. Est-ce que ça vaut la peine? Si vous aimez le genre, il reste la fiabilité à prouver, mais c'est un véhicule pas mal de fun. Alors, c'est tout le temps qu'on avait. Merci à Martin derrière la console qui était avec nous. Merci à Yves Boisvert pour sa chronique fort intéressante.
Ouais.
Alain, nous autres, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va parler du mini électrique que j'ai eu l'occasion d'essayer. L'embargo sera levé. Passez une bonne semaine et nous, on se reparle la semaine prochaine. Salut.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.